Alors aujourd'hui, nous allons rester dans le thème, mais je vais le prendre d'un autre axe. Le thème de l'été, c'est la reconnaissance. Et donc je m'appelle Daniel Douchimé Mouniabaramé. Daniel, ça veut dire seul Dieu est mon juge. Donc si on me juge, c'est pas mon problème. Je sais qu'il n'y a que lui qui me juge. Mouniabaramé, c'est le nom de mon père. Ça veut dire celui qui vivra longtemps. Mon père, quand il est né, il a dû se battre pour sa vie parce que plusieurs personnes voulaient le faire mourir. C'est un prêtre dans un dispensaire au village qui a vu ce petit garçon et qui a sauvé sa vie. On lui a donné son nom qui veut dire celui qui vivra longtemps. Douchimé, ça veut dire rendons grâce. Mon nom veut dire rendons grâce. Ça veut dire que mes parents, quand ils m'ont donné ce nom, c'est que pour eux, c'était une source de reconnaissance envers Dieu pour ma vie. Quand je suis né, mes parents venaient de perdre leur deuxième enfant, et qui s'appelait David. Il avait 8 mois. Et moi, je suis arrivé juste après. Et le nom qui m'a, le deuxième prénom, on va dire, qui m'a été donné, c'était Rendons grâce à Dieu. Et depuis jeune, je savais que j'étais là pour servir Dieu, parce que ma mission était celle-là. À l'âge de 5 ans, j'étais mourant et il s'est passé quelque chose, c'est que ma mère a combattu toute la nuit avec un esprit de mort qui était venu dans ma chambre, qui se reposait. Elle l'a vu physiquement reposer au-dessus de mon lit. Et moi, je ne m'en rappelle pas, bien sûr, mais je me rappelle d'une chose, c'est que Jésus est venu me voir ce matin-là, cette nuit-là. J'ai vu Jésus et j'ai posé plein de questions. Et arrivé un moment, je voyais au loin un endroit qui était merveilleux et j'avais hâte d'y aller. Et dans l'histoire, c'est qu'on était comme dans une petite coccinelle avec Jésus qui conduisait, j'étais à côté. Et puis il arrête le véhicule et il dit, descends, t'es pas encore besoin de toi et ce n'est pas ton heure. Et ça, je m'en rappelle encore. Et quand j'en ai partagé avec ma mère, elle m'a expliqué ce qui s'était passé cette nuit-là. Donc je suis conscient que je dois être là. Je suis conscient que et reconnaissant envers Dieu parce qu'il a un projet pour chacun d'entre nous ici. Pendant que j'étais en train de préparer, je regardais par la fenêtre tout le monde qui arrivait et le Saint-Esprit m'a dit, chaque personne qui vient ici ce matin, c'est moi qui l'ai attiré à ce lieu parce que j'ai un message pour lui parce que je l'ai choisi. Vous savez, des fois, on a tendance à penser que c'est nous qui avons choisi Dieu. C'est lui qui nous choisit. C'est lui qui nous attire à lui. Personne n'a choisi Dieu. Dieu nous a choisis d'abord. Et après, nous avons dit oui. Et le message aujourd'hui, dans la reconnaissance, ce que j'ai reçu, c'est de vous encourager à savoir ce que Dieu pense de nous, qui il pense que nous sommes et pourquoi il nous a laissés sur cette terre. Donc, je vais juste revoir vite fait certaines choses par rapport à la reconnaissance que nous avons vue. La reconnaissance est une preuve de ce que nous avons perçu ou compris. Être reconnaissant sous-entend poser une action qui manifeste une appréciation de ce que nous avons perçu ou reçu. C'est-à-dire que quand nous savons que nous avons reçu quelque chose, nous manifestons la reconnaissance. Lorsque nous manifestons la reconnaissance, c'est une preuve que nous avons reçu quelque chose. La reconnaissance. Jasmine en a parlé la dernière fois. La reconnaissance ouvre les portes vers l'impossible, vers le miraculeux. Elle nous a donné des témoignages sur sa vie personnelle. Le pasteur Rodrigue, au début du thème, a parlé de la reconnaissance attire la joie. La joie est une force. La joie n'est pas seulement un état, c'est une force. La joie détruit la dépression. La joie donne l'énergie pour combattre les circonstances. Et Jésus, à un moment, dans la reconnaissance, a rendu grâce. Dans Marc 6, 41-42, on dit Jésus leva les yeux vers le ciel et rendit grâce. Avant de faire quoi? Avant de faire un miracle. Rendre grâce ouvre la porte vers les miracles. Et qu'est-ce qu'il a fait? Avec 5 pains et 2 poissons, j'ai essayé, je n'ai pas réussi. 5 000 hommes ont été nourris sans compter les femmes et les enfants. Donc on imagine que s'il y a 5 000 hommes et que chacun a une femme, donc il y a encore 5 000 femmes. Si on dit en moyenne, dans ce temps-là, on faisait beaucoup d'enfants. On dit en moyenne, allez, on va dire 3 enfants. ça fait déjà 15 000 enfants, plus 10 000 par an, avec 5 pains et 2 poissons. C'est-à-dire on prend la baguette, on la coupe en 5, on prend 2 poissons, avec ça il a nourri presque 25, voire plus, 25 000 personnes. Et dans la reconnaissance, il y a plusieurs niveaux. Il y a la reconnaissance, on va juste dire merci. Les enfants, je leur apprends à dire merci, on leur apprend à dire merci. Des fois, on leur tend quelque chose, et dès qu'ils prennent, ça ne bouge pas, on tient. Tant qu'ils n'ont pas dit merci, on ne lâche pas. C'est le premier niveau. Désolé les gars. Et le plus haut niveau de la reconnaissance, c'est l'honneur. L'honneur est la plus grande forme de reconnaissance. Honorer Dieu, c'est élever ce qu'il élève et abaisser ce qu'il abaisse. L'honneur est la semence de la faveur. Je peux tracer la faveur qui est dans ta vie par l'honneur que tu as donné. Et le manque de faveur peut être tracé par le manque d'honneur qui n'a pas été donné. Et pour finir sur la reconnaissance est un style de vie dans le royaume de Dieu. Et ça nous ramène sur le sujet d'aujourd'hui, voir ce que Dieu voit, voir les plans de Dieu pour nos vies. Quelle est la fonction qui fait qu'il nous laisse sur la terre? Une fois, je me pose la question, je dis, mais Seigneur, si le but c'est d'aller au ciel tout simplement, mais une fois qu'on t'a accepté, on n'a qu'à juste évacuer. Mais pourquoi tu nous laisses ici avec le risque qu'on puisse un jour tomber et t'abandonner? Mais lui a d'autres projets. Et le sujet qu'on va voir, c'est qu'est-ce qu'être un ambassadeur pour Christ? Nous savons que Dieu a envoyé son Fils et qu'il est venu pour nous amener le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Le royaume des cieux qui est le lieu où siège le trône de Dieu, l'endroit duquel il règne. Un pays invisible, on a déjà, je pense, vu ici, parce qu'on pratique le royaume de Dieu dans cette église. Et dans Philippiens 3:20, on dit « Quant à nous, notre droit de cité est dans le ciel ». Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que chacun d'entre nous ici qui sommes en Christ, nous ne sommes pas d'abord français, si vous êtes français, nous sommes d'abord citoyens du royaume de Dieu. Ensuite, nous sommes français ou d'autres nationalités, en ce qui me concerne, rwandais. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes ici pour un temps, mais chez nous, c'est là-haut. Ça change la perspective de qui nous sommes. Et on va lire dans 2 Corinthiens 5, 17, 21, qui va être la base pour notre enseignement, c'est alors à partir du 16. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Je relis ça. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Au verset 20, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ. Et je vais mettre l'emphase sur ce passage et sur la fonction d'ambassadeur. Car trop souvent, nous lisons, mais notre vie ne va pas manifester toujours la reconnaissance parce que nous ne savons pas ce que Dieu a mis en place pour nous. Nous ne savons pas ce que Dieu a prévu pour nous. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, je suis très conscient que je suis un ambassadeur de Christ. Donc, il n'y a aucune limite qui m'est fixé si ce n'est Dieu qui la fixe. Comme je vous l'ai dit, je suis né au Rwanda et mon père est un missionnaire et donc il était au Kenya pour travailler au niveau de la diffusion de la Bible. Sa fonction était d'être ambassadeur pour Christ par le moyen de la diffusion de la Bible sur toute l'Afrique. Donc son travail c'était chercher les fonds partout dans le monde pour financer les Bibles dans plusieurs langues partout en Afrique afin que chaque peuple puisse avoir une Bible dans sa langue maternelle. Il a fait ça pendant 30 ans. Donc on a bougé et on a été au Kenya. Et en arrivant au Kenya, il a eu cette idée de nous mettre dans une école française. Donc il faut savoir que les écoles françaises à l'étranger, ce n'est pas comme ici. Ce n'est pas public, c'est privé. Et c'est un niveau d'excellence qui n'est pas celle qu'on trouve peut-être toujours ici. Parce que les écoles sont une vitrine de la France. Donc on donne la meilleure image. Et quand j'ai commencé ma scolarité dans les écoles françaises, donc depuis le CP jusqu'à la terminale, au Kenya, puis en Afrique du Sud, donc l'école Denis Diderot, ça doit vous parler, Diderot, l'école Jules Verne en Afrique du Sud. Donc on nous a dit, en allant dans cette école, notamment quand il y avait certains problèmes dans mon pays, que si vous aviez une crainte, vous aviez juste à venir et rester à l'école. Et on dit, mais comment ça? Ils disent, mais l'école, c'est la France. C'est un territoire français ici. On m'a dit, ah d'accord, c'est la première fois qu'on entendait ça. Et ça a été un privilège pour nous de comprendre différentes, comment dire, de comprendre différentes cultures, de voir autre chose. Et il s'avère que je suis arrivé en France en 2001 pour continuer mes études, qui était la suite logique après mon bac en Afrique du Sud. Et en arrivant en France, j'avais du mal parce que je parlais français sans accent, mais je n'avais jamais été en France. Je ne connaissais pas la France, je n'avais jamais mis les pieds en France. J'avais été en Belgique, mais mis à part ça, je n'avais jamais mis les pieds en France. Mais je parlais français comme un français, sans accent, comme je vous parle aujourd'hui. Et les gens ne comprenaient pas que je ne comprenne pas comment on prend le TGV. Il n'y a pas de TGV là où j'étais. Donc j'allais à la boîte à information et puis je disais, bon, je voudrais prendre le TGV de tel endroit à tel endroit. Et puis la dame me regardait, mais vous moquez de moi. Et je disais, mais non, je ne sais pas. Et elle n'a pas voulu me donner l'information. Pourquoi? Parce que la langue que je parlais, c'était la langue d'ici. Mais je n'étais pas venu encore ici. Vous allez comprendre. Je parlais la langue française, mais je n'avais jamais été en France. Pouvons-nous parler la langue du ciel sans avoir été au ciel? Oui, on peut. Parce que Dieu nous a donné son Fils pour nous manifester ce à quoi ressemble le ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et donc, dans cette école, j'ai rencontré des fils d'ambassadeurs, de consuls généraux, etc. Et j'ai découvert certaines choses. Et en lisant la Bible, en cherchant, tout ça m'est revenu. Et donc, on va aller dans quelques faits à savoir sur un ambassadeur. Ça va nous éclaircir sur qui nous sommes en tant qu'ambassadeurs pour Christ. Un ambassadeur n'est pas voté dans la fonction, mais il est établi par le gouvernement ou le roi. C'est-à-dire que personne ne vote pour que quelqu'un devienne ambassadeur. C'est celui qui dirige le pays, qui l'envoie dans un pays étranger pour le représenter, lui et son gouvernement. Et c'est lui qui décide qui va aller le représenter là-bas. Donc il n'est pas voté. Il est établi tout simplement. Il représente un pays, jamais lui-même. Un ambassadeur ne se représente pas. Il représente toujours un pays. Ou un gouvernement. Ou un roi. Il a pour mission de défendre uniquement les intérêts du pays qui le missionne. Jamais les intérêts du pays local. Il donne toujours la position de son gouvernement, jamais son opinion personnelle. Oh, je pense que je vais débattre. Non, non. Que dit celui qui t'a envoyé? Ça t'évite beaucoup de problèmes. Parce que si tu donnes ta pensée, tu dois la défendre. Tu dois la supporter toi-même, tu dois la peser et tu dois la défendre devant les hommes. Mais quand tu donnes la pensée du pays qui t'a envoyé, le pays défend la parole. Ça évite les débats. Il ne critique jamais un autre ambassadeur, sinon on appelle ça de l'insubordination. Disqualification. Donc si tu es ambassadeur et que tu veux un autre ambassadeur, laisse-le, tu ne sais pas la mission qui lui a été donnée. Il est le dépositaire de l'autorité de l'État dans le pays où il est accrédité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous voyez un ambassadeur, par exemple, je vais vous donner l'exemple en Afrique du Sud, l'ambassadeur de France venait une ou deux fois dans l'année à l'école. Et quand il arrivait, 3 jours, 4 jours avant, on le savait. Tous les étudiants étaient informés. L'ambassadeur de France vient. Qu'est-ce que ça provoquait? Ça provoquait un changement d'atmosphère. Parce qu'il avait le même poids que le président de la République. Donc il était honoré, respecté comme le président de la République. Et c'est l'autorité qui lui est donnée. Il représente le pays. Lorsqu'un ambassadeur parle, donc comme je viens de dire, il engage son pays d'origine et ce, en toutes circonstances. Il n'a pas de vie privée ou un langage différent en privé. Il représente toujours le pays, toujours. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pays doit mettre tout en place pour soutenir, pour donner tout ce que cette personne a besoin afin de manifester la gloire du pays qu'il représente. Est-ce que ça vous parle? Un ambassadeur a ce qu'on appelle une sécurité. On appelle ça une immunité diplomatique. Lorsque vous voyez un ambassadeur, ce n'est pas une personne comme vous et moi. Lorsqu'on voit un ambassadeur, on voit le pays. Celui qui m'a vu a vu le Père. Lorsque je vois l'ambassadeur de France en Afrique du Sud, je vois la France. Pourquoi? Parce qu'il incarne un pays. En anglais, on dit embodiment, c'est-à-dire qu'il est un pays. Il n'est plus une personne, c'est plus un citoyen comme vous et moi. C'est la France qui marche quand il marche. Quand il parle, c'est la France qui parle. Lorsque vous avez en face de vous un ambassadeur, c'est donc un pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si moi, on va dire dans le terme du monde, si quelqu'un frappe un citoyen, on appelle ça une agression. Vous avez porté plainte à la police, c'est une agression. Lorsqu'on frappe un ambassadeur, on appelle ça un incident international, incident diplomatique. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le pays met en force toute la force nécessaire pour aller à son secours. Nous sommes ambassadeurs de Christ. Voilà pourquoi Jésus dira dans Matthieu 18, 16, si quelqu'un scandalise un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendit à son cou une meule de moulin et qu'on le jeta au fond de la mer. Un de ces petits qui croient en moi est un ambassadeur. Il dit, si quelqu'un le scandalise, on ne l'a même pas, c'est-à-dire offensé, pas frappé, pas juste offensé, scandalisé, salir le nom. Il dit, vaut mieux pour lui qu'on suspende une meule et qu'on le jette au fond de la mer. Parce que la force qui va venir, c'est une autre force. Vous voyez la protection? Le pays envoie ce qu'on appelle une force spéciale. Quand un Français est touché à l'étranger, on va envoyer une certaine force. Quand c'est l'ambassadeur, ce n'est pas la même force. Vous savez, quand vous allez à l'étranger, ou même si vous allez à Paris, vous allez à l'ambassade des États-Unis, vous savez que vous êtes à l'ambassade des États-Unis, avant même que vous arriviez là-bas. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain endroit, les rues sont extrêmement propres. Vous allez dans d'autres ambassades, vous voyez l'ambassade, vous la cherchez, et puis vous voyez un petit drapeau, vous dites, ah, c'est là. Et puis, vous voyez, il y a même un voisin au-dessus, et puis il y a l'appartement en dessous, c'est l'ambassade. Certains pays de... chez nous, là-bas. Hein? Et pourquoi? Parce que l'ambassade manifeste la gloire du pays. Vous allez à l'ambassade des États-Unis, vous ne pouvez pas rentrer. Si vous n'avez pas rendez-vous, si vous n'êtes pas convoqué, vous ne pouvez pas rentrer. Vous ne pouvez pas. Parce que la protection manifeste la gloire du pays, la force du pays, la force de frappe du pays. Quand un ambassadeur est touché, les États-Unis peuvent envoyer leur armée en moins de 12 heures, même s'ils sont à plus de 25 heures de vol. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a quelque part quelqu'un qui veille au cas où. Nous sommes ambassadeurs de Christ. Jésus dit dans Matthieu 26, 52, quand il est dans le jardin de Gethsémané, on vient le chercher, puis Pierre prend l'épée et coupe l'oreille, puis il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Ne sais-tu pas que je peux appeler mon Père et avoir à l'instant 12 légions d'anges? Est-ce qu'il avait besoin de nous chrétiens pour le protéger? 12 légions d'anges. Une légion, vous savez, c'est combien? C'est 6000. 12, vous avez fait le calcul. Plus de 60 000 anges. En sachant qu'un seul ange a terrassé l'armée de Pharaon. C'est pas du backup là. C'est pas. Quand Jésus dit ne vous inquiétez de rien, il sait pourquoi il le dit. Il sait pourquoi il le dit. Parce que dans Hébreux 1, 14, on dit les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour apporter de l'aide à ceux qui vont hériter du salut? Ça veut dire quoi? Qui va hériter du salut? Nous. Donc les anges sont là pour qui? Servir Dieu. Mais Dieu, il n'a pas besoin de ces anges là-bas, il a besoin des anges pour nous. Donc il envoie les anges pour nous aider, nous protéger. Tu sais, il y a quelques temps, mon père était en Afrique du Sud, il rentrait de mission et puis s'est fait hijacker. En Afrique du Sud, c'était quelque chose qui était assez courant. Et donc il y avait mon père, ma mère et mon petit frère Néhémie qui étaient dans la voiture. Et une voiture est arrivée, ordonnée d'arrêter, il ne s'est pas arrêté. Il a continué à tracer, la voiture l'a doublé et ils ont allumé 6 balles sur le pare-brise de la voiture. Impact de balles sur le pare-brise. Mon père était parmi vous il y a quelque temps. Ils sont arrivés à la police, ils ont passé la voiture au scanner, ils ont dit mais on ne trouve même pas les balles. On voit les impacts, oui, le pare-brise a pris les balles, mais comment se fait-il? Tu devais être mort parce que 4 balles qui arrivent au droit du cœur sur une voiture qui n'est pas blindée. Il dit, mais monsieur, que faites-vous? Il dit, je suis pasteur. Donc quand je vous dis, je suis ambassadeur, je suis conscient de ce que Dieu est capable de faire. Je suis conscient. Lorsque Dieu vous envoie en mission, il vous prend en charge. Parmi des amis que j'avais en Afrique du Sud, j'avais le fils d'un consul général de la Belgique. Et il était assis avec moi en classe et puis il est devenu un très bon ami. Et puis, au bout de quelques temps, il me dit, ben, tu ne voudrais pas venir à la maison? Et vous voyez, même pour inviter, ça a mis du temps. Parce qu'on ne va pas juste comme on veut là-bas. Et donc, j'y vais. Et puis, on arrive au temps de manger. Et puis, il me sert une canette de Coca-Cola. Je vois « Made in Belgium ». Alors, je ne sais même pas comment je suis allé voir ça, mais j'ai juste vu « Made in Belgium ». Je dis, mais on trouve la Belgique exporte du coca ici. Et il me dit, au fait, on n'a pas le droit de boire le coca d'ici. Je dis, pardon? Je dis, comment ça? Il dit, bah, nous, on ne fait pas les courses ou toi, tu fais tes courses. Ah, donc je me suis dit, bon, c'est consul général, je peux comprendre qu'ils ont des moyens, peut-être que nous, ce n'est pas le même accès. Bon, mais, et je dis, mais comment c'est possible? Il dit, au fait, vu que mon père est consul général, il doit vivre comme en Belgique. Donc la Belgique se charge d'envoyer tout ce dont il a besoin pour que quand on le voit, on voit la Belgique. C'est. Donc, le beurre n'était pas d'Afrique du Sud. Les frites qu'on mangeait chez lui venaient de Belgique. L'eau gazeuse venait de Belgique. Rien de ce qu'il consommait ne venait d'Afrique du Sud. Il n'en avait pas le droit. Parce que s'il consommait local, ça pouvait descendre la gloire du pays. Et il ne pouvait consommer que certaines choses qui étaient en accord avec des pays qui ont le même standard. Pour venir à cela, un ambassadeur est pris en charge par son pays. pas par le pays qui le reçoit. Toutes les factures sont payées par le pays qui l'envoie. Il ne paye pas de facture d'électricité, il ne paye pas de gasoil, il ne paye pas de frais médicaux, il ne paye rien. Il a juste une enveloppe qui correspond à son salaire, qu'il n'est même pas obligé de dépenser. Il est pris en charge par le pays. Partout où il va, il a une maison. Lorsqu'un ambassadeur se déplace n'importe où dans le monde et qu'il y a une ambassade dans ce pays, l'ambassade devient sa maison. C'est prévu. Dans toutes les ambassades des grands pays, dans chaque ambassade, il y a un appartement. Il est nourri et vit selon les standards de son pays et non du pays de résidence. C'est-à-dire que quand, par exemple, il y avait la famine au Kenya, l'ambassadeur des États-Unis n'était pas en famine, hein, je vous rassure. La famine ne touchait que ceux qui dépendaient de ce pays. Donc, lorsqu'un ambassadeur est missionné, il vit selon les standards du pays qu'il envoie. Voilà pourquoi Jésus dit dans Matthieu 6, 33, ou 6, 31 déjà, il dit, mais pourquoi vous inquiétez de ce que vous allez manger, de ce que vous allez boire? Pourquoi vous inquiétez? Ce sont les païens qui s'occupent de ces choses. Pourquoi? Parce que les païens ne sont pas connectés à l'Alliance. Il dit, mais si toi, tu vas et que tu recherches premièrement le royaume de Dieu et sa justice, toutes choses vous seront données par-dessus. La condition, c'est de faire la mission qu'il nous a donnée, rechercher le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les choses vous seront données. La provision est en fonction de la mission. Donc, quand j'ai eu accès à toutes ces personnes par cette grâce que Dieu nous avait fait d'être dans cette école, j'ai vu plein de choses. Je me suis dit, mais un exemple, l'immunité diplomatique. Je ne l'ai pas noté, mais ça me revient. Quand j'avais un ami qui, lui, il était à l'ambassade de France, son fils, son père était à l'ambassade de France, et à un moment, il y avait des bouchons. On partait de Johannesburg vers Pretoria, c'est à peu près 70 km. Et il y avait plein de bouchons, il prend la ligne d'urgence. Sa mère lui dit, non, fais pas ça. Il dit, non, mais c'est pas grave. Je lui dis, mais attends, c'est pas grave, si on se fait arrêter, tu sais, moi, j'ai un passeport qui n'est pas comme le tien. Il me dit, mais t'inquiète pas, tant que t'es dans la voiture, on peut rien te faire. Je suis commençant. Il me dit, ils n'ont pas le droit de fouiller notre voiture. Donc, même s'il te voit, je lui dis, il n'y a personne derrière, il ne peut rien faire. Pourquoi? Parce que la voiture dans laquelle il est assis, avec le passeport diplomatique, devient la propriété de la France. Il n'a pas le droit, les policiers nationaux n'ont pas le droit, ils doivent demander la permission à la France pour pouvoir intervenir sur cette voiture. Et si la France refuse, ils ne peuvent rien faire. Quand Jésus est devant Pilate, il dit, ne sais-tu pas que j'ai le droit de prendre ta vie ou te donner la vie? Il dit, détends-toi Pilate. Si mon père ne t'avait pas donné le droit, tu ne pourrais rien faire. Parce qu'il était conscient de ce qu'il représentait, de qui il représentait. Qu'est-ce qui nous empêche souvent à vivre cela? C'est que malheureusement, nous ignorons trop souvent nos droits et nos devoirs. Le diable a été vaincu, on le sait, n'est-ce pas? On le sait, Jésus l'a vaincu à la croix. Mais pourquoi a-t-il encore autant d'impact dans certaines vies, dans certains lieux? Vous savez, j'ai appris une chose, c'est que les ténèbres, ce n'est pas la nuit. Le diable, on l'appelle le prince des ténèbres. Le mot ténèbre veut dire ignorance. Le prince veut dire première loi d'utilisation. Je règne par les ténèbres, donc par l'ignorance. C'est-à-dire que ce que tu ignores, c'est ce que je vais utiliser pour te frapper. Et tout ce que je peux faire, c'est faire en sorte que tu n'entendes pas tes droits, tes devoirs, afin que je puisse continuer à te frapper et maîtriser ta vie. Et comment on chasse l'ignorance? Jésus a dit, je suis la lumière. La lumière, bah, si ténèbres, ça veut dire ignorance, lumière, ça veut dire connaissance. Vous savez, il y a un passage dans Genèse, au bout du deuxième jour, la Bible dit, Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Mais j'ai un problème parce qu'au verset 14, on dit, Dieu créa les luminaires, le grand pour créer, pour illuminer la journée et le petit pour la nuit, donc la lune et le soleil. Mais qu'est-ce qui s'est passé au verset 2 ou 3 ? Que la lumière soit. Tout était vide, c'était un chaos. Les choses que Dieu avait créées, c'est passé quelque chose que je ne peux pas expliquer, mais les choses ne connaissaient pas leur raison d'être. Et quand il a dit que la lumière soit, il a dit que la connaissance soit. Et chaque chose a su ce qu'il était là pour faire. Et donc, chaque chose a pris sa place. Parce que le soleil n'a pas été créé le deuxième jour. Et pourtant, il dit que la lumière soit. Donc, lorsqu'il y a une ignorance, lorsqu'il y a des circonstances, Dieu dit que la lumière soit. Et comment la lumière vient ? Ce qui est marrant, c'est que Dieu nous met tout ça à disposition. Et on peut vivre toute une vie sans savoir ce qu'il a mis pour nous. Ambassadeur. Ambassadeur, c'est plus qu'un sénateur, plus qu'un gouverneur. L'ambassadeur a le même titre que le président. C'est-à-dire que nous sommes co-héritiers avec Christ, avec ce que nous avons reçu de Dieu, nous sommes comme Christ sur la terre. Il dit à un moment dans 2 Corinthiens à la fin, afin qu'on puisse être justice de Dieu. C'est fort. C'est-à-dire que lorsque les gens vont nous voir, ils voient la justice de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne verront jamais Dieu si ce n'est par nous. C'est-à-dire que les gens vont nous voir et ils vont voir Christ. Et si nous ne manifestons pas Christ parce que nous allons dire, là je suis en mode vie privée, donc parlez pas de ça, on en reparle, c'est trop tard. Nous n'avons pas de vie privée, nous sommes des ambassadeurs. Matin, midi, soir, nous devons représenter le pays. Dans Osée 4:6, il est dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Pas parce que le diable les a vaincus. Il dit parce qu'il lui manque la connaissance. Pourquoi il manque la connaissance ? Il dit parce que nous avons rejeté la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Sacerdoce, ça veut dire aussi ambassadeur, prêtre, représentant. Et ça va plus loin, parce qu'il y a une conséquence à ça. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Puisque tu as rejeté la connaissance, rejeter, ça veut dire choisir de ne pas utiliser. C'est un choix. La connaissance est disponible, mais tu choisis de ne pas l'utiliser. Donc nous devons revenir à la parole. Parce que c'est la parole qui permet de donner du poids à notre titre d'ambassadeur. Comment allons-nous représenter un pays que nous ne connaissons pas ? Jésus a dit dans Jean 15, « Je suis le cèpe, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Il dit clairement, il ne passe pas par quatre chemins. « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Allez-y, essayez, vous allez galérer, mais vous n'arriverez à rien. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Ça veut dire ce que ça veut dire. Jésus est la parole. Sans la parole, vous ne pouvez rien faire. Ce qui nous donne le poids de l'autorité, c'est la parole que nous connaissons. Connaître veut dire savoir plus application, savoir plus expérience. Savoir, ça ne suffit pas. Il faut l'expérimenter, la pratiquer. C'est ce qui nous donne le poids dans l'autorité. Lorsqu'un ambassadeur est envoyé, par exemple dans le cahier des charges des États-Unis, on dit qu'il doit être un représentant respectable. C'est-à-dire que lorsqu'on lui pose une question sur les États-Unis, il a intérêt à savoir. Il ne peut pas dire je vais demander à un conseiller. Non, trop tard, éliminé. Ça veut dire quoi ? Tu seras dépouillé de mon sacerdoce. C'est-à-dire, je t'ai donné le sacerdoce, tu l'as, mais tu seras dépouillé. Ça veut dire qu'on t'enlèvera l'autorité qui te permet de me représenter. En quelque sorte, je vais te cacher pour que tu ne me fasses pas honte. C'est ça que ça veut dire. Je vais te cacher, les gens ne te verront, même s'ils passent à côté de toi, ils ne te verront pas. Pour que tu ne fasses pas honte à mon nom. Nous ne pouvons pas marcher comme des ambassadeurs sans autorité. Il est le cep, nous sommes les sarments. Tu coupes le cep meurt, le sarment continue à vivre. De lui découle la vie. Et vraiment ce que Dieu a mis sur mon cœur, c'est vraiment partager ce que Dieu a mis en place pour vous, pour nous. Il veut nous introduire à nous-mêmes. Parce que si on cherche en nous-mêmes, on doit voir Christ. La foi vient de ce qu'on entend. Vous savez, la foi, c'est la monnaie du ciel. Sans foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. C'est la monnaie du ciel. C'est ce qui permet aux choses de descendre du ciel vers la terre. La reconnaissance. Sans la foi, il n'y a pas de reconnaissance. Parce que tu vas reconnaître quoi? Beaucoup de problèmes que nous avons, c'est parce que nous manquons de reconnaissance. Parce que nous ne savons pas qui nous sommes en Christ. Nous ne savons pas tout ce qu'il a mis à disposition pour que nous puissions vivre comme au ciel. Il a dit que mon règne vienne. Qu'est-ce que Jésus nous a dit? Priez, lorsque vous priez, dites que ton règne vienne. Comment le règne va venir? À travers les ambassadeurs. Il est venu montrer l'exemple et dit maintenant, allez-y, faites beaucoup plus que moi. Allez-y. Mais avant d'y aller, n'allez pas me faire honte, restez d'abord à Jérusalem. Attendez. Attendez que celui qui doit venir vienne. Parce que si vous partez, vous allez me faire honte. Et vous allez être dépouillé par ce qui est dehors. Donc, attendez que mon esprit vienne sur vous, qu'il vous couvre, qu'il vous remplisse. Et alors, vous pourrez aller jusqu'aux extrémités de la terre. Vous savez, Jésus, c'est la parole. Au commencement était la parole, tout a été fait par la parole existait, etc. Lorsqu'on regarde la Bible, entre Malachie et le Nouveau Testament, il y a à peu près 400 ans. 400 ans de silence. Aucun prophète n'avait une parole. Et puis Jésus arrive. Jésus grandit en stature, en perfection. Il grandit, arrive à 30 ans. Jean-Baptiste le baptise. Et à ce moment-là, on entend Dieu parler. Ça veut dire que pendant 400 ans, Dieu ne parlait pas. Mais normal, il avait donné la parole. Il avait libéré la parole. Il ne pouvait plus parler. Il était sans la parole. La parole était partie pour la mission. Et ce n'est que quand il a été baptisé qu'il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma confiance, toute mon affection. C'est à ce moment que Dieu parle encore. Pourquoi? Parce que finalement la parole est libérée. Maintenant elle va pouvoir activer tout le plan qu'il avait. Si Jésus ne réussissait pas, Dieu ne pourrait plus parler. Parce qu'il avait donné la parole. Nous avons besoin de cette parole. Je suis le produit de la parole. Vous savez, quand il a fallu venir en France, et j'étais donc à l'école française depuis le début, comme je l'ai dit, et j'ai toujours la nationalité rwandaise, et on ne voulait pas me donner le visa pour venir faire mes études. Je dis, attends, mon père a payé pendant des années l'école, à un prix certain, et là je veux aller finir mes études, on ne veut pas? Je dis, mais c'est pas possible. Je prie, et Dieu me dit, où veux-tu aller? Je dis, ben, Montpellier, parce qu'il fait beau. C'est ce qu'on m'avait dit. On m'avait dit qu'à Montpellier, il faisait beau. J'ai dit, la France, là, l'hiver, pas pour moi. Donc, je suis allé voir le proviseur. Je dis, où est-ce qu'il fait beau en France? Il me dit, Montpellier. Je dis, ben, je vais à Montpellier. Aussi simple que ça. Je ne connaissais pas Montpellier. Mais j'ai commencé à rechercher la ville de Montpellier. J'ai commencé à aller sur Internet et regarder Montpellier. Voir les écoles, les universités, etc. Et j'ai commencé à mettre vraiment mon focus sur Montpellier. Et le Seigneur me dit, tu vas à Montpellier. Je dis, d'accord. On commence les visas. Et puis, pour ceux qui ne sont pas français, ils savent. Et là, je découvre que Dieu est souverain. C'est-à-dire qu'on ne me donne pas le visa tout de suite. Tous les autres ont eu leur visa. Tous les Français sont rentrés chez eux. Et puis, Daniel est resté derrière avec son frère. Et je fais les démarches, ça traîne, on a envoyé, etc. Et puis à un moment, vous savez, la reconnaissance, ça apporte le miraculeux, je vous ai dit tout à l'heure. Ça apporte la faveur. J'ai un ami qui était là dans l'école avec moi, qui était un peu marginal. Mais j'ai toujours aimé ce garçon parce qu'il était sympa quand même. Et j'ai toujours eu une bonne relation avec lui. Et je laissais parler de ses idées qui n'était pas très clair, mais je l'ai accepté avec sa différence. Je ne l'ai pas sous-estimé. Et il revient, donc il va en France au mois de juin, il revient pour 2 semaines et il retourne. Je dis, mais nous, ça, c'est pas comme ça. Il faut pouvoir le faire. Et il me dit, mais pourquoi tu n'es pas encore en France? Je dis, mais parce que ton pays ne veut pas me donner le visa. Il me dit, comment ça? J'ai appliqué, j'ai rien. Il me dit, ok, je te rappelle ce soir. Il rentre, son père s'occupait de la culture à l'ambassade. Il m'appelle, il me dit, mon père veut te voir demain matin. Viens avec tous tes papiers. Je dis, d'accord. Je prends la voiture le lendemain matin, je me dis, ok, ça commence. Et donc on y va, et puis il me dit, raconte-moi tout. Qui tu es, ce que tu fais, ce que tu veux faire. Et je raconte mon parcours, l'école française depuis le CP. Je parle, je mange et je pense français. J'élève quand même le niveau, quoi. Et il me dit, ok, c'est moi qui vais gérer ton dossier. Donc le temps passe, je dois partir, je crois que c'était le 13 août, au soir. Je travaille dans un magasin de sport pour me mettre un peu d'argent de poche pour venir ici. Et il me dit, je m'en occupe. Et moi, je me dis, ok, le temps arrive, aux alentours du 10, je démissionne. Et on me dit, mais qu'est-ce que tu vas faire? Je dis, mais je vais en France. Et elle me dit, mais comment ça tu vas aller en France? Ma responsable, elle me dit, mais tu ne peux pas aller en France. Tu n'as pas les moyens d'aller en France, toi. Parce qu'elle pensait que je travaillais pour manger. Non, mon père s'occupait de moi. Moi, je travaillais pour venir ici, acheter des chaussures, des trucs que mon père ne voulait pas me payer. Parce que c'était exagéré. Et elle me dit ça, ça m'a blessé parce qu'elle a regardé mon enveloppe, elle n'a pas regardé qui j'étais. Elle m'a confondu. Elle m'a confondu. Parce qu'elle n'a pas eu le discernement. L'honneur apporte la sagesse. La sagesse, c'est discerner les circonstances, discerner les moments, discerner les saisons, discerner la différence dans la personne que vous avez devant vous. Et je démissionne et je lui laisse même le plaisir de garder le dernier jour de salaire pour lui montrer que reste calme, je sais qui je suis. Et puis le 12 arrive, j'ai toujours pas de visa, mais j'ai déjà le billet pour partir avec mon frère le lendemain. Et mon père, je vois mon père, c'est pas qu'il doute, mais il dit, mais les enfants là, s'il y a une déception, comment ça va se passer? Je dis, papa, non, t'inquiète pas, on a acheté les valises, on a tout acheté, les vêtements pour le froid, tout. Et puis le vendredi matin, on avait pour habitude, quand mon père voyageait, il était dans un avion tous les 10 jours à peu près, et on avait pour habitude de l'accompagner à l'aéroport, et puis on s'arrêtait dans un restaurant, on mangeait ensemble, et puis après il partait, et puis... Surtout quand il partait très longtemps. Donc du coup, on fait la même chose. On va au centre commercial, on prend le petit déjeuner, le brunch et tout. Et mon père nous regarde et il dit, mais qu'est-ce que Dieu vous a dit? Je dis, mais papa, ce soir on part. Il dit, d'accord. On devait partir le soir à 18h. L'ambassade fermait à 11h le vendredi, 11h30. Il était 10h. Et je reçois un coup de fil, numéro masqué, parce que c'est l'ambassade. Hein. Et on me dit, Monsieur Doshime, votre visa est prêt, vos passeports sont prêts. Je dis, merci. Et ils me disent, mais le problème, c'est qu'on ferme à 11h. Je dis, mais je ne pouvais pas être là pour 11h. Il dit, bon, on restera ouvert pour vous. Et je suis arrivé après l'heure de fermeture habituelle pour marquer le coup. Parce que tout lieu que ton pied foule, il te donne en possession, en héritage. Et l'histoire ne s'arrête pas là. C'est que bon, je reçois les visas, je viens en France. Et puis mon ami Benoît, il vient me voir quelques 6 mois, 1 an plus tard. Il me dit, alors tu sais comment ça s'est passé pour que tu viennes ici? Je dis non, bah, ton père a géré. Il dit, bah, au fait, ce qui s'est passé, c'est que il a pris ton dossier et s'occupant de la culture, il a dit que c'était inadmissible que des enfants qui ont fait l'école française depuis leur tendre enfance ne puissent pas continuer à découvrir ce qu'est la France. Donc, il a fait un courrier au ministère des Affaires étrangères avec valise diplomatique, il a tout envoyé. Et le dossier a été traité à l'Assemblée nationale. et la loi a changé en disant que tous les étudiants étrangers ayant effectué les 3 dernières années, c'est-à-dire seconde, première, terminale, dans un lycée français, ont automatiquement un visa pour la France. Donc quand je vous dis je suis ambassadeur, je suis conscient que même la France ne peut pas limiter Dieu. Ils peuvent mettre des lois, mais à la fin, c'est Dieu qui décide. À la fin, c'est Dieu qui décide. Et je veux vraiment vous encourager à comprendre que Dieu, lorsqu'on lui donne notre liberté, c'est-à-dire le choisir, quand il nous a choisi de dire oui, pardon, quand il nous a choisi de dire oui, il s'occupe du reste. Notre sécurité, là, ce week, on est allé manger avec ma femme dans la semaine, et on était au centre-ville de Montpellier, et j'étais en train de me dire, mais comment je vais développer la sécurité, machin, je pensais à tout ça. Et puis, on est en train de manger, et bagarre dans le bar qui est juste à côté. Je regarde, je dis, oh là là. Et là, je vois un grand monsieur qui fait 2 têtes de plus que moi, 2 épaules de plus que moi, sortir et puis dire des gros mots comme pas possible. Et nous, on est assis juste à 2,50 m. Et je vois deux garçons sortir tout fins, en train d'essayer de le retenir. Je me dis, mais le pauvre, il va leur marcher dessus, avec un pied, et ils seront cuits. Et je vois, et en moi, je dis, mais je ne peux pas rester, j'observe. Et puis à un moment, il ressort et il commence à prendre l'élan pour aller à l'intérieur. Je quitte ma chaise et je l'attrape le bras. Sauf que là, toute l'attention maintenant vient vers moi. Eux, ils sont tranquilles, les deux. Et là, il me regarde et il me dit, mais espèce de... En relation avec ma couleur. Avec un mot qui commence par N. Et vous savez, comme les écrivains qui écrivent pour... Et le truc, c'est que moi, je suis un ambassadeur. Je suis en train d'étudier le sujet en plus depuis toute la semaine. Et me vient en tête, ne sais-tu pas que j'ai envoyé une délégation pour toi? Et là, la force revient. Parce que le gars était balèze. Ma femme enceinte juste à côté. Il faut protéger la famille. On était avec un couple d'amis qui n'étaient pas chrétiens du tout. Témoignage. Restez calme, pas de mots déplacés en privé, public, vous comprenez ce que je veux dire. Et à un moment, il voit que je ne réagis pas. Donc il me dit ce mot-là en anglais. Je le comprends, l'anglais aussi. Donc je comprends. Je dis, et je le regarde, je ne bouge pas. Et puis à un moment, il me dit, je suis russe. Et il me parle en russe pendant 10 secondes. Et je comprends. Allô. Et là, je le regarde et je ne bouge pas. Je dis, si je recule, il va croire que j'ai peur. Là, je suis cuit. Il va croire que je le provoque. Il me dit, bon, qu'est-ce que je fais? Et là, je me rappelle, ton droit de cité est dans le ciel. Donc, si je suis du ciel, il y a une langue là-bas, c'est un pays. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu es russe? Moi, je suis du ciel. J'ai parlé en langue. Et puis, je suis resté là. Et là, il me regarde. Il dit, mais tu viens d'où, toi? Je dis, qu'est-ce que ça peut te faire? Donc, il revient encore en russe. Aïe! Je regarde. Et moi, je dis, je vais un pas en avant, je dis, Reka baba sende reko rababa saya. Et je lui tends la main. Je fais le pont, je tends la main. Il est devenu doux comme un agneau. Doux comme un agneau. Il m'a dit, mais d'où tu viens? Moi, j'étais en Afrique. J'ai vendu des armes en Afrique. Avec une cicatrice ici, une autre là. Donc, tout pour vous faire peur. Mais vous savez, le diable, il peut que nous intimider. Parce que nous sommes des ambassadeurs. Tant que Dieu n'a pas donné la permission, personne ne peut vous toucher. Personne. Et je veux vraiment vous encourager à rentrer dans la parole. Parce que cette assurance vient grâce à l'intimité. Qui est ton Dieu? Est-ce qu'il te connaît? Est-ce que les versets de la Bible te parlent, te nourrissent? Là, j'ai un challenge avec mes enfants, là, jusqu'à la fin des vacances. Ils doivent apprendre 10 versets par cœur. Noé, il connaît déjà le psaume 23 par cœur, le psaume 1, Jean 3, 16, Jean 14, 6. Raphaël, il connaît Jean 14, 6, Hébreux 13, 11. 13, 8, pardon. 13, 8. Parce que la parole, c'est ce qui nous a, dans les moments difficiles, dans les moments sombres, c'est la parole qui nous a gardés. Mon père nous disait, quand on passait les épreuves qui sont passées dans le pays d'où je viens, il disait, vous savez les enfants, ne vous inquiétez pas. Tant que Dieu est sur le trône, il ne vous arrivera rien. Il n'y a rien qui peut vous arriver tant que Dieu n'a pas permis. Et on se mettait dans la parole et on creusait. Et c'est ce qui nous a tenus. Et aujourd'hui, nous avons vu le rôle d'un ambassadeur. Et dans le verset de 2 Corinthiens 5, 17 à 21, il y a 5 fois le mot réconciliation. Ambassadeur pour faire quoi? Pour réconcilier les hommes à Dieu. Afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Je veux vraiment vous encourager à prendre ça avec cœur parce que c'est notre raison d'être encore là. Sinon, il nous aurait déjà évacués. Mais il y a ici une ambassade du royaume des cieux. Et toute personne qui rentre ici, Dieu vous a attiré à lui ce matin. Et il veut vous donner tous les outils pour vaincre, témoigner de qui il est. Quand on vous voit, on doit voir le royaume de Dieu. Quand vous parlez, vous devez parler avec assurance, marcher la tête haute. Je n'ai jamais vu un ambassadeur marcher en disant « Oh, comment je vais payer mes factures ?» Quand j'ai des factures bizarres, je dis « Seigneur, tiens, il y a du courrier. » Et j'ai une entreprise, donc vous comprenez. C'est des fois. Ah oui, je regarde le compte, je dis « Ah non, la provision doit venir d'ailleurs. Tiens, tu as du courrier. » Et je continue ma journée. Véridique. Des fois, ma femme, elle prend peur, elle me dit, il est fou. Parce que la parole se soutient elle-même. On n'a pas besoin de défendre la parole. Des fois, on va chercher des combats, on se dit, ah, nous sommes l'armée de Dieu. Dans un royaume, le citoyen ne se bat pas. Comme on a vu tout à l'heure, il y a une armée. C'est les anges. Pourquoi vous allez vous battre là où Dieu a déjà une armée? Un ange, comme j'ai dit tout à l'heure, a terrifié toute l'armée de Pharaon. Et vous voulez que j'aille me battre avec ce russe? Non. Lorsqu'on parle en langue, on dit des mystères à Dieu. Là-dedans, il y a appel, SOS, il y a remerciement, il y a tout ce qu'on a besoin pour résoudre la situation sur ce moment-là. Et en même temps, construire l'autre. Voilà ce que j'avais à cœur. Et je vous remercie. Que Dieu soit béni.